Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Les violences à l'égard de syndicalistes sont une honte pour notre démocratie et inacceptables.
Emmanuel Macron qui condamne fermement l'intrusion qui a eu lieu aujourd'hui au siège parisien de la CFDT. Des opposants à la réforme des retraites de la coordination SNCF-RATP se sont brièvement introduits dans les locaux. On n'a pas été violent, assurent les intéressés. Le musée du Louvre a lui été fermé toute la journée et les touristes, venus nombreux et qui n'étaient pas au courant, étaient passablement énervés contre les grévistes. Près de 4 mois après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, les riverains maintiennent la pression. Ils attendent toujours des réponses. Une étoile en moins pour le restaurant de Paul Bocuse. Onde de choc depuis hier soir. On sera sur place, près de Lyon. On entendra également Jean-Paul Gaultier qui a fait une annonce ce soir. La haute couture, c'est fini.
Ça va être mon dernier défilé de couture. Mais, j'ai un nouveau concept. Je te raconterai tout ça après, tu sais, je te le dirai, tous les petits secrets. Mais ça va continuer.
On vous dit tout, c'est promis, dans un instant avec Virginie Salmen. Et puis le foot, Granville et Club de National face à Marseille, deuxième de la Ligue 1, c'est la magie de la Coupe de France. Ce sont les 16e de finale et ça se passe en ce moment. C'est la mi-temps, 0 partout pour l'instant entre les deux équipes. On rejoindra sur place évidemment à Caen, Jean-François Pérez qui suit pour Europe 1 cette rencontre importante pour l'OM. Côté météo, la journée de demain s'annonce un peu plus froide avec moins de pluie, mais de la neige sur les reliefs. Le ciel se couvrira progressivement. Ne manquez pas surtout les prévisions complètes d'Anissa Haddadi pour votre week-end à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir le président du groupe Rossignol, Bruno Cerclet. Les skis Rossignol qui seront exposés à l'Elysée ce week-end dans le cadre d'une grande exposition Made in France, fabriquée en France. Ils symboliseront le savoir-faire de la Haute-Savoie lors de cette exposition.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc l'image du jour qui a fait réagir jusqu'au président de la République. On va l'entendre dans un instant, cette intrusion à la mi-journée au siège de la CFDT à Paris. Une vingtaine de personnes de la coordination RATP-SNCF ont donc pénétré dans ce siège de la CFDT, créant un mini-mouvement de panique. Laurent Berger dit qu'ils auraient agressé verbalement les personnes présentes et peut-être même physiquement. Ce n'est pas du tout la version d'Anas Kazib. Il était sur place, il est cheminot Sudrail.
Pas non plus en faire 3 tonnes, surjoué par M. Berger. Tout a été très bien cadré. Il n'y a ni eu la moindre casse. Il n'y a pas une vitre cassée, il n'y a même pas un papier par terre. Toutes les images sont sur Internet. De A à Z, prenez l'ensemble des images. Celui qui arrive à trouver la moindre violence vient me rappeler et me le dit.
Anas Kazib de la CGT de Sudrail, il était au micro Europe 1 de Jeanne Bergaoui. Cette intrusion, en tout cas, on le disait, a été condamnée ce soir par Emmanuel Macron en personne.
Je condamne avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé cet après-midi. Et toute forme de violence, j'ai eu l'occasion de le dire, à l'égard d'élus, quelques élus que ce soit de la République, les violences à l'égard de syndicalistes, quelles que soient d'ailleurs les confédérations syndicales, sont une honte pour notre démocratie et inacceptables. La justice passera, j'espère, le plus vite possible.
Emmanuel Macron qui condamne donc avec vigueur cette intrusion au siège de la CFDT à Paris, intrusion qui illustre la fracture désormais entre les syndicats. Après 6 semaines de mobilisation contre la réforme des retraites, la CGT dit ne pas cautionner ce type d'action. La CFDT en tout cas va porter plainte. Elle estime que les faits qui se sont produits sont très graves et de très nombreux responsables politiques, outre le président de la République, ont également apporté leur soutien à la CFDT. Alors il n'y a pas eu de manifestation aujourd'hui, mais plusieurs actions ciblées un peu partout en France, mobilisation notamment des avocats lors des audiences solennelles de rentrée des cours d'appel à Caen, à Lyon, à Orléans, à Bourges, à Grenoble ou encore à Bordeaux aujourd'hui. Et puis l'entrée du musée du Louvre a, elle, été bloquée toute la journée, provoquant, vous allez l'entendre, la colère des touristes.
Ils sont 20, on est 500 à faire la queue, c'est inadmissible. Je perds 40 euros pour ma grand-tante et moi, c'est inadmissible. Il faut que la police enlève ces gens d'ici.
Nous venons d'Alsace. Donc ça nous dérange beaucoup.
Je vous entendais huer là à l'instant.
Une sorte de ras-le-bol et une image pas très sympa quoi, pour tous ces touristes qui viennent découvrir la France. Et donc c'est loin d'être drôle.
Là c'est l'intersyndicale culture, c'est le monde de la culture qui se mobilise aujourd'hui.
Alors c'est l'intersyndicale culture et plus particulièrement au musée du Louvre. C'est une volonté de notre part de se rassembler autour de cette pyramide et de manifester notre mécontentement. Leurs billets seront remboursés, ça c'est un engagement qu'a pris la direction du Louvre. et donc ils auront tout à loisir de revenir visiter le musée.
Voilà pour ces propos recueillis devant le musée du Louvre par Pauline Jacquot aujourd'hui. Le trafic SNCF sera encore perturbé ce week-end, mais avec quand même une nette amélioration, davantage de TER et de Transilien et un service TGV quasi normal, tandis que côté RATP, cette ligne de métro fonctionneront normalement demain. Un collectif de médecins qui dénonce le manque de moyens dans les hôpitaux publics a annoncé ce soir qu'il maintenait ses menaces de grève administrative à l'issue d'une rencontre jugée décevante avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Pour le moment, le compte n'y est pas, disent-ils. François Hollande prend la défense de Ségolène Royal, évincée de sa mission d'ambassadrice d'épaule et à qui l'exécutif reproche ses prises de position contre le gouvernement qu'il a pourtant nommé à ce poste. L'ancien président estime que l'on a manqué à son égard d'élégance et de reconnaissance. Ségolène Royal, qui d'après nos confrères du Figaro, va créer une structure politique pour préparer la présidentielle. Ce laboratoire d'idées s'appellera Désir de France, avenir de la planète. La politique, c'est aussi le maire socialiste de Dijon, François Rebsamen, ancien ministre du Travail, qui annonce être candidat à sa réélection à la tête de la mairie de Dijon, où il a été élu maire pour la toute première fois en 2001.
Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 22h06, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et près de 4 mois maintenant après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, c'est la première fois que le comité de suivi composé d'élus locaux, d'associations et aussi de l'autorité de santé a été autorisé aujourd'hui à entrer sur le site. Hélène Terzian, vous étiez sur place à leur côté, sauf que tous n'ont pas voulu y participer, une association de riverains notamment a boudé l'invitation.
Effectivement, et ils ont voulu le faire savoir. Devant l'entrée de l'usine, ils étaient une vingtaine en combinaison blanche et masque sur la bouche. Pour demander plus de transparence, ils ont artificiellement fait retentir une sirène.
La sirène citoyenne fonctionne bien. Petit message à notre préfecture, qui aurait pu prévenir ses habitants très tôt le matin.
Souvenir à tous les citoyens, par dizaines de milliers, pollués, lubrisolés.
Quelques minutes après, le président du collectif de riverains, Simon de Carvalho, engage la discussion avec une représentante de Lubrizol.
Oui, hein, c'est pacifique.
Non, il n'y a pas de problème. C'est, en fait, je pense que
moi, j'en ai gros sur le cœur parce que ça a été vraiment mal géré, mais du début à la fin. D'où est parti cet incendie? Beaucoup de produits toxiques, ce cocktail.
Les analyses montrent qu'il n'y a pas d'incidence négative pour la santé et l'environnement. Ça a été prouvé. Qu'est-ce que vous faites de ça?
Cette invitation déclinée par le collectif, la directrice générale France de Lubrizol, Isabelle Striga, le regrette.
Je pense que c'est dommage qu'il ne soit pas venu à la commission. Et je comprends tout à fait les craintes des riverains. Maintenant, il faut que tous ensemble, on tourne la page et il faut qu'on s'écoute. Nous avons des choses à dire, à expliquer. Les riverains ont des questions à poser et je trouve que c'est bien qu'on se rencontre.
Une rencontre en revanche acceptée par les élus et autres associations conviées. Beaucoup sont rassurés, même si des doutes persistent, me confiait une élue.
Le reportage d'Hélène Terzian à Rouen pour Europe 1. Après 4 jours de témoignages souvent glaçants, le procès du père Bernard Prénat s'est achevé aujourd'hui en attendant le jugement. Ce sera le 13 mars. Le prêtre accusé de multiples agressions sexuelles auprès de jeunes scouts. Jean-Luc Boujon, vous avez suivi ce procès pour Europe 1. La procureure a donc requis une peine d'au moins 8 ans de prison.
Oui, 8 ans minimum, sachant que la peine maximale possible dans ce dossier est de 10 ans. La procureure a demandé cela pour les victimes. Un mot que Bernard Prénat a tant de mal à prononcer. Des victimes qu'il ne regarde jamais en face, a-t-elle déclaré. Elle l'a qualifié de pervers, de pédophile en série, n'accordant que peu de crédit à ses aveux mécaniques et à ses demandes de pardon. Elle a même ironisé sur sa stratégie de défense. Étrangement, vous êtes un homme coupable, mais pas responsable. Pour vous, la seule solution est donc l'enfermement. 8 ans donc demandé, ce qui satisfait Pierre-Emmanuel Germain-Til, l'une des 10 victimes.
8 ans, ça me paraît plus que cohérent et je félicite encore une nouvelle fois Madame la procureure pour ses réquisitions, pour tout ce qu'elle a pu dire, parce que honnêtement, elle a bien fait son boulot. Quoi. Pour moi, il y a une nécessité vraiment d'enfermer cette personne. Quoi.
Parce qu'il est toujours dangereux ou il doit être puni?
Il doit être puni et en même temps, voilà, je pense que ça reste quand même dangereux. Quoi.
Voilà, alors en face, l'avocat du père Prénat, maître Frédéric Doyer, a trouvé ce réquisitoire démesuré.
Je trouve que c'est excessif. C'est-à-dire prétendre juger 30 ans après des faits alors que les valeurs de la société ont changé, que l'homme a changé lui-même. Je pense que c'est vraiment faire comme si on jugeait une affaire d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas.
Voilà, le père Prénat qui s'est une dernière fois adressé aux victimes avec un petit texte préparé qu'il a lu, réitérant sa demande de pardon et assurant qu'il n'avait pas menti, qu'il avait été sincère dans les limites de sa mémoire. Le verdict sera rendu dans 2 mois, le 16 mars.
Jean-Luc Boujon au Palais de Justice de Lyon. Et c'est une page qui s'est tournée ce soir dans le monde de la mode. Jean-Paul Gaultier a annoncé que son défilé haute couture, mercredi à Paris, dans le cadre de la Fashion Week, que ce défilé au Théâtre du Châtelet serait son dernier. C'est la fin d'une époque, Virginie Salmen.
Avec sa marinière bleue et blanche, Jean-Paul Gaultier est le couturier français qui a tout osé. Habillé Madonna, star provocatrice s'il en est, d'un iconique bustier avec les seins pointés, fait défiler des femmes rondes comme Bess Ditto, des icônes populaires comme Nabila, des transsexuels, des mannequins dont on ne savait pas s'il s'agissait d'hommes ou de femmes. Jean-Paul Gaultier a commencé à dessiner des tenues pour son ours en peluche quand il était tout petit, élevé par sa grand-mère. Il a toujours revendiqué ses origines populaires. Il aime jouer avec les codes. Et il aime jouer tout court, comme dans cette vidéo qu'il a postée il y a quelques heures, dans laquelle il fait semblant de téléphoner à quelqu'un.
Je vais te dire un scoop. Ça va être mon dernier défilé de couture. Donc tu viens, tu ne peux pas manquer ça. Mais. Et je te rassure, Gaultier Paris continuera. La haute couture va continuer. J'ai un nouveau concept. Je te raconterai tout ça après. Tu sais, je te le dirai tous les petits secrets. Mais ça va continuer. Bisous.
Jean-Paul Gaultier annonce donc son dernier défilé, mais pas la fin de la haute couture pour sa marque. Ses équipes gardent le silence total sur ses futurs projets.
À suivre donc les précisions de Virginie Salmen pour Europe 1. Hier, c'est un autre monde qui a connu un séisme, celui de la gastronomie. La perte de sa 3e étoile pour le restaurant de Paul Bocuse, un choc en particulier à Collonges, sur les bords de Saône, là où le chef lyonnais avait installé son auberge.
Pour nous, c'est notre Saint-Père, hein. Pour nous, dans la restauration, Monsieur Paul, voilà, il avait son importance, il apportait tellement, et pour moi, effectivement, ils auraient mérité de la garder, puisque finalement, rien n'a baissé. Il reste dans les traces de Monsieur Paul, et puis voilà, je trouve que c'est dommage.
C'est pas normal, c'est une vengeance du guide Michelin, ou je sais pas où il veut se faire de la pub, mais il y a 3 chefs brillants depuis qu'il est parti et qu'au contraire, ils auraient même monté en gamme. Je pense pas que ça soit juste.
Voilà, épreuve de l'émotion suscitée par cette étoile. En moins, même Emmanuel Macron a réagi aujourd'hui. J'ai une pensée pour la mémoire de Monsieur Paul et sa famille, a-t-il dit. Alors comment le guide Michelin justifie-t-il sa décision? On voit ça avec vous, Pierre Herbulot.
Il n'y a pas de traitement d'exception. Voilà les mots de Gwendal Poulenec, le patron du Michelin. Le guide assume, donc, les étoiles appartiennent au chef et pas au restaurant. Les établissements sont souvent déclassés après le départ ou la mort d'un chef. Et c'est valable aussi pour l'auberge du Pont de Collonges de Paul Bocuse. Malgré sa renommée mondiale, malgré son histoire, le restaurant a perdu en qualité. Il devait donc être déclassé, explique Gwendal Poulenec dans le journal de midi sur Europe 1.
Ce que nos inspecteurs ont noté l'année dernière, c'est qu'il y avait d'ailleurs une évolution de cette cuisine. Mmh. C'est une maison qui est en pleine transition. Il y a une nouvelle équipe qui a choisi aussi d'apporter sa touche personnelle. Encore une fois, les étoiles du guide Michelin, elles ne s'héritent pas, elles se méritent. Et le guide Michelin est totalement imperméable aux effets de mode.
Le Michelin semble donc poursuivre sa mue, toujours plus intransigeant. L'an dernier déjà, 3 chefs perdaient leur 3e étoile, dont le médiatique Marc Vera. Il a même attaqué le guide pour ça, avant de perdre son procès le mois dernier.
Les précisions de Pierre Herbulot pour Europe 1. De la pluie, enfin, au-dessus de l'Australie. Un peu de répit pour les habitants et un soutien bienvenu pour les pompiers qui luttent depuis des mois contre les incendies. L'équipe française qui avait été envoyée sur place pour épauler les Australiens vient tout juste de rentrer à Paris. Le colonel Bruno Uliac de la Sécurité civile a dirigé cette mission.
On a été impressionnés très clairement par ces feux qui touchent maintenant pratiquement 20 millions d'hectares sur le pays. Ça représente un quart de la France. On était sur des sites de 200, 300 000 hectares, 500 000 hectares. Ce sont des choses qu'on n'a jamais connues en France. On a été complètement en immersion dans les équipes de gestion des feux. Donc on a été dans les centres de commandement, on a été dans toutes les équipes d'évaluation aérienne, donc on a survolé les feux, essayé d'établir avec eux des cartographies à risque et comment ils pouvaient répondre. On a été particulièrement impressionné aussi du travail de nos collègues australiens, la solidarité de la population australienne face à cette problématique.
Le colonel Bruno Uliac de la Sécurité civile, joint pour Europe 1 par Roman Hockey. Un tableau du peintre Gustave Klimt retrouvé par hasard. Il avait été volé il y a 20 ans dans un musée italien et ce sont des jardiniers qui sont tombés dessus en arrachant du lierre sur un mur extérieur. Le portrait d'une dame n'était donc pas bien loin. Il avait été tout simplement laissé dans une bouche d'aération du musée, dans un sac poubelle. Le foot, on suit ce soir. Vous le savez, la rencontre de 16e de finale de la Coupe de France entre Granville, club de National, et Marseille, 2e de Ligue 1. Un match qui se joue au stade d'Ornano de Caen. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Isabelle.
Vous nous disiez à 21h combien ce match était important pour l'OM. Ça s'est passé comment cette première mi-temps?
Ça s'est passé plutôt pas mal en termes de domination, de possession de balles et d'occasion. Mais pour l'instant, le score est toujours de 0-0 entre l'Olympique de Marseille et l'US Granville, le club normand dont l'entraîneur disait avant le match: jouer l'OM en Coupe de France, c'est s'attaquer à l'Everest en claquette. pointe. Bon, on va dire que pour l'instant, ils ont fait 2-3 000 mètres. Hein, on n'est pas encore à 8 800, mais ça en prend le chemin parce qu'ils résistent. Ils sont prêts physiquement, ces joueurs de Granville, à faire face à la deuxième équipe de Ligue 1 qui se procure évidemment des occasions. On a vu des tirs de Payet, un magnifique coup franc. Rongier qui a failli ouvrir la marque d'une reprise de volée. Lopez qui lui aussi a tenté sa chance. Mais pour l'instant, ça ne veut pas rentrer. Signe que vraiment l'OM a envie que ça aille le plus vite possible et éviter de douter. On a fait rentrer celui qui était censé se reposer ce soir, le buteur argentin Dario Benedetto. 50 minutes de jeu ici à Caen, toujours 0-0 entre Granville et l'Olympique de Marseille.
Merci beaucoup Jean-François Pérez, et si vous le voulez bien, on vous retrouvera un petit peu avant 22h30 pour faire un nouveau point sur cette rencontre. Tout de suite, il est l'heure de jeter un œil sur la météo, et c'est avec vous Anissa Haddadi. Anissa, le temps redevient sec presque partout demain.
Oui, effectivement Isabelle, alors vous le disiez, presque sur toute la France, puisque quelques petites gouttes sont encore possibles dans le nord-est et les Alpes du Sud demain. Toujours sur les Alpes, des flocons qui sont attendus dans l'après-midi, tout comme sur le Massif central. Alors sur la Manche, quelques petites averses se déclencheront aussi dans la journée. Et puis dans l'après-midi, sur l'ensemble de la France, c'est un ciel qui se couvre, surtout au sud de la Garonne, avec sur le Pays Basque et les Landes, de la pluie demain après-midi. Sur les Pyrénées, c'est de la neige qu'on attend à partir de 600 mètres. Et d'ailleurs, cette limite pluie-neige va s'abaisser dans la nuit de samedi à dimanche. Il va neiger encore à plus basse altitude. Partout ailleurs, eh bien, le ciel est variable avec pas mal de nuages et quelques rayons de soleil. C'est au sud que le soleil sera le plus présent. Les températures, elles sont en baisse. Moins 4 à 7 degrés demain matin, moins 1 à Aurillac, 2 degrés pour Besançon, Châteauroux et Nancy, 3 à Paris. Demain après-midi, nous aurons 9 à 16 degrés de Langres à Bastia, 6 pour Belfort, 9 à Paris et 12 pour Marseille.
La météo signée Anissa Haddadi. Et dans un instant, vous aurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le président du groupe Rossignol, dont les skis seront exposés, figurez-vous, ce week-end à l'Elysée. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h18, merci d'écouter Europe 1. Comme tous les soirs, on s'intéresse maintenant à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui termine cette semaine sur un petit nuage.
Oui, rien n'arrête les indices qui battent encore une fois ce soir des records historiques, toujours portés par la détente commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le Dow Jones monte de 0,17% à 29 347 points. Le Nasdaq gagne lui 0,34%, 9 389 points. Parmi les bonne nouvelle du jour, la croissance chinoise a progressé l'an dernier de 6,1%. Alors, c'est son rythme le plus lent depuis 29 ans, mais il semble s'être stabilisé au quatrième trimestre. Du côté des valeurs, Alphabet, la maison mère de Google, a franchi le seuil des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le titre gagne 2%. Et puis encore des mauvaises nouvelles pour le B737 Max de Boeing, cloué au sol depuis deux crashs mortels. Boeing a découvert un nouveau problème de logiciel sur l'appareil, ça n'en finit plus. Et le titre chute donc ce soir de 2,4%. Du côté des devises, l'euro perd 0,4% et s'échange contre 1,1090$.
Et le marché parisien lui atteint ce soir la barre des 6100 points.
Oui, après une longue série de séances sans mouvement, le marché renoue avec des niveaux inédits depuis l'été 2007. Le CAC 40 bondit de 1% et termine la semaine à 6100 points. Très belle séance pour le secteur du luxe, Kering, Hermès et LV. LVMH ont atteint des records. Ils sont dopés par les résultats meilleurs que prévus du Suisse Richemont. Richemont, c'est le propriétaire de Cartier ou de Montblanc et le numéro 2 mondial du secteur. Et puis le titre EDF flambe de près de 10%. Les investisseurs saluent la future réforme du mécanisme de régulation des prix de l'énergie nucléaire.
Mais dans ce contexte, Claire, le secteur de la distribution a tout de même un petit peu cassé l'ambiance aujourd'hui à Paris.
Oui, le secteur souffre des grèves en France avec un chiffre d'affaires et des résultats en baisse fin 2019 pour les magasins Casino et Fnac Darty. Ça se traduit par une lourde sanction en bourse. Le titre Casino plonge de 4,6% ce soir et Fnac Darty de plus de 7%. Les marchés européens terminent bien la semaine. Londres monte de 0,8%, Francfort de 0,7%, Madrid plus 1,1%, Amsterdam plus 0,6%, Milan plus 0,8%, Zurich plus 1,4% et le CAC 40 lui gagne 1% à 6100 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de boursier.com et bonne soirée à vous. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le président du groupe Rossignol.
Bonsoir Bruno Cerclet.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de la marque de ski Rossignol. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est qu'on va pouvoir vous retrouver ce week-end dans les allées de l'Elysée, puisque vous faites partie de ces nombreuses marques qui participent à ce grand événement du Made in France. On va y voir vos skis, bien évidemment. Déjà, question toute bête, pourquoi vous avez eu envie de participer à l'Élysée à cette célébration du Made in France ?
D'abord, on nous l'a proposé, donc c'est toujours un plaisir d'accepter ce genre de proposition. On est toujours très fiers de faire de l'industrie en France. On est les seuls à fabriquer aujourd'hui des skis en France, des fixations également. Et donc, on voit que c'est vraiment, en particulier vis-à-vis des consommateurs français, un critère qui devient de plus en plus intéressant, important dans les discussions. Et ça nous semble une bonne idée.
Pour vous, c'est un vrai argument de vente quand vous dites, nous, notre ski Rossignol, il est fabriqué en France.
Je crois que le premier argument de vente, c'est de faire les meilleurs skis du monde. Ensuite, dans certains pays, il y a vraiment un plus. Les gens nous demandent des skis fabriqués en France.
Concrètement, ce week-end, vous pensez que ça va quand même servir à quoi ? C'est-à-dire que là, les Français vont venir vous voir, ça va doper vos ventes, ça va... Quel est quand même le but derrière tout cela ?
Je crois qu'il y a, un vrai retour du balancier aujourd'hui qui est en train de s'opérer entre l'Asie et l'Europe, et donc la France en particulier. Je pense que c'est le moment d'insister et de parler avec tous les acteurs pour essayer de créer les conditions d'une vraie efficacité de l'industrie en France. Donc évidemment, ça m'intéresse de communiquer sur les produits Rossignol, c'est toujours bien à ce moment de la saison. Mais je pense que si on peut en profiter pour interpeller les autorités politiques, notamment pour nous aider à faire encore mieux...
Comment il faut vous aider ?
Ben, je crois qu'il faut essayer de bien comprendre ce que font les entreprises, quelles sont les barrières qu'on peut avoir, notamment en termes de coût du travail. Je pense qu'il y a une vraie volonté politique aujourd'hui et profitons-en, essayons d'aider à tout ça.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, disait hier matin sur Europe 1, j'appelle les patrons à augmenter les petits salaires, notamment au travers d'accords d'intéressement qui peuvent être plus intéressants. Maintenant que ça va mieux chez Rossignol, vous partagez la richesse ?
Alors, on partage la richesse. L'année dernière, nous avons suivi l'initiative du président Macron avec cette fameuse prime Macron.
Vous le refaites cette année ?
Alors, on ne sait pas encore si on est en capacité de le refaire cette année. On a un exercice qui se termine à fin mars. On verra. L'objectif, c'est d'intéresser les salariés aux résultats. On a mis en place des programmes d'intéressement depuis maintenant plusieurs années, depuis une dizaine d'années chez Rossignol, et c'est évidemment très apprécié.
Maintenant, on va s'intéresser quand même à cette saison de ski. Pour vous, c'est fini finalement ? Vous avez déjà livré tous vos skis ? Vous pouvez nous dire si déjà la saison est bonne ?
Alors, la saison est bonne. On a effectivement, nous, en tant que fabricants, livré à peu près 90% des besoins de la saison.
Qu'on vous en recommande, là, comme ça, au dernier moment, avant les vacances de février. Déjà, tout ce qui a été cassé pendant les vacances de Noël, on en recommande un peu ?
Voilà, on aime bien quand les gens cassent les skis, effectivement. Alors, pas trop quand même.
Parce que ça peut vouloir dire qu'ils sont pas très solides.
Le renouvellement pendant la saison, c'est quelque chose qu'on fait assez couramment. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie... Il y a un vrai engouement aujourd'hui en Europe. La neige est là, globalement, dans toute l'Europe, sauf la Scandinavie. Et donc, c'est toujours une très bonne nouvelle pour nous dans l'activité. Les réservations sont au beau fixe, je pense, pour le mois de février. Donc, pour le moment, tout va bien.
En termes vraiment de vos produits, quelle est la tendance aujourd'hui de ce marché du ski ? Vers quoi on va ?
On va vers de la simplicité, on va sur de la légèreté, on va sur du plaisir. Il y a quelques années, le ski c'était perçu par certains comme étant une activité de compétition, de le meilleur temps possible, etc. Aujourd'hui, on est en train de... On utilise bien sûr la compétition pour mettre au point nos produits, pour trouver la bonne performance des produits, mais elle est destinée avant tout au plaisir de partager une expérience extra, soit tout seul, soit avec des amis, soit en famille.
Quand on voit les bons résultats de nos skieurs français, notamment Alexis Pinturo, c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que un peu comme quand un tennisman français réussit bien, bon certes ça fait longtemps, ça dope le tennis. Est-ce que vous, ça dope le ski aussi ?
Oui, bien sûr. Donc c'est très important. Rossignol, le groupe Rossignol aujourd'hui, et la marque Rossignol en particulier, est numéro un aujourd'hui dans la Coupe du Monde alpine et en biathlon d'ailleurs avec Martin Fourcade. C'est très important pour nous, pour mettre au point nos produits. Et bien sûr, ça crée une certaine émulation, un enthousiasme dans le milieu de la montagne. Nos clients à nous...
L'effet Martin Fourcade se poursuit dans le biathlon, puisque c'était un sport, quand même, il faut bien le reconnaître, très méconnu, qui a connu un véritable boom médiatique. Ça se vérifie dans les ventes de ski de fond ?
Ah oui, tout à fait. J'étais à l'étape de Coupe du Monde du Grand Bornand il y a quelques semaines, quand vous avez 50 000 personnes sur place dans le week-end qui hurlent. C'est impressionnant pour une discipline où il y a très peu de licenciés aujourd'hui, en France en particulier, mais ça dope vraiment... la pratique qui est devenue une pratique de fitness d'hiver, on va dire. Donc on a énormément rajeuni cette pratique ces dernières années, grâce à Martin Fourcade, je pense.
On va terminer avec la neige responsable, puisque c'est un sujet dont on parle de plus en plus, hein, l'utilisation des canons à neige, l'utilisation de la ressource. Vous, chez Rossignol, vous venez d'annoncer un grand plan autour de cela pour être vous-même l'un des premiers les plus responsables. Il était temps, il fallait là aussi accélérer sur cette question.
Alors oui, effectivement, hier, on a communiqué au siège de Rossignol, on a dévoilé plutôt notre plan RSE qui s'appelle Respect, autour de quatre pôles, les produits, les fabrications, la partie sociale et puis également le terrain de jeu, la montagne. On découvre pas ce sujet chez Rossignol, on travaille déjà depuis de nombreuses années sur tous ces aspects, sur la recyclabilité des produits, sur les meilleures pratiques en usine, les économies d'énergie, sur le comment faire pour protéger le terrain de jeu, aller nettoyer la montagne, enfin, etc., baisser notre impact. Donc on a annoncé des objectifs hier qui sont finalement très simples. Réduction de nos déchets de 40% d'ici 2025, réduction de nos émissions de CO2 de 30% d'ici 2030 et en visant la neutralité carbone en 2050.
Eh bien, un grand merci Bruno Cerclet, le patron de Rossignol, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve lundi 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous et on vous dit effectivement à lundi, Emmanuel Duteil. Et voici maintenant ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Loi bioéthique, ces dérives qui inquiètent, c'est le titre du Figaro. Les opposants à la PMA, pour toutes, défileront dimanche à Paris contre le texte dont l'examen commence la semaine prochaine au Sénat. Les associations dénoncent un texte qui ouvre la voie à la PMA sans père, à la GPA, à l'autoconservation des ovocytes, au commerce des gamètes, aux chimères. Si l'expression gestation pour autrui ne figure pas dans ce texte, c'est une ombre qui plane sur le débat. L'Église, elle, bien sûr, a exprimé son inquiétude. Australie, voyage au bout de la suie. C'est le titre du journal Libération, dont l'envoyé spécial a arpenté le bush ravagé par des flammes géantes où les habitants, entre colère et fatalité, peinent à prendre conscience de l'ampleur de la catastrophe. Après Vera, Bocuse, titre le Dauphiné libéré, avec à la une la photo du célèbre chef qui vient de perdre, on en parlait tout à l'heure, hein, sa troisième étoile Michelin. S'attaquer au mythe était si périlleux, écrit le journal, que le patron du guide Michelin s'est rendu en personne sur place 10 jours avant l'annonce officielle. La nouvelle a fait sensation dans le petit monde de la gastronomie. Dans le journal L'Alsace, Laurent Baudin revient, lui, sur l'état du marché automobile. La rentabilité, boussole obligée de l'industrie auto, écrit-il. L'industrie automobile tricolore, qui n'est plus aussi flamboyante que par le passé, elle s'est adaptée à la conjoncture comme aux nouvelles habitudes de consommation. Renault d'un côté, PSA de l'autre, sont de moins en moins des constructeurs hexagonaux. Le cœur en France, le portefeuille ailleurs. Sans s'ouvrir au monde, les deux groupes auraient coulé depuis longtemps, absorbés par plus gros qu'eux, écrit le journaliste. Il n'en reste pas moins que Renault et PSA sont des moteurs de l'économie française et ont à ce titre des responsabilités. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et on va faire tout de suite un nouveau détour par Caen pour retrouver Jean-François Pérez qui suit pour nous cette rencontre de Coupe de France, 16e de finale entre Granville et Marseille. Et l'OM, Jean-François, qui semble-t-il n'arrive toujours pas à marquer. Hein.
Exactement, 64e minute de jeu, toujours 0-0 ici à Caen entre l'US Granville et l'Olympique de Marseille qui domine, certes, qui se crée des occasions aussi, mais qui ne parvient pas à conclure parce que déjà dans cette équipe de Granville, il y a d'excellents défenseurs qui ont très bien travaillé tactiquement leur affaire, qui connaissent les joueurs de l'OM, qui savent comment les empêcher de combiner. Puis un gardien dans les buts s'appelle Jeffrey Baltus qui multiplie les parades et puis dès qu'ils en ont la possibilité, comme c'est en ce moment le cas, eh bien les Normands contre-attaquent et tout à l'heure ça a bien failli donner un pénalty puisque Kevin Strootman, l'international néerlandais de l'OM, était à deux doigts donc suite à une faute de concéder un pénalty qui aurait peut-être pu empêcher un petit peu plus les affaires de l'Olympique de Marseille dans ce match malgré tout relativement mal embarqué pour les professionnels. Les petits signes se multiplient. Il y a eu notamment 3 cartons jaunes contre l'Olympique de Marseille, ce qui prouve bien la nervosité des professionnels face à ces amateurs qui tiennent le coup. 0-0, 65e minute de jeu ici à Caen.
Les petits vont-ils manger les grands? Merci en tout cas Jean-François Pérez en direct de Caen pour Europe 1. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie de Sabine Marin pour votre libre antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Isabelle.
Très belle soirée à vous, je suis ravie de vous retrouver.
Moi aussi, on vous retrouve à 23h pour les prochaines infos. Yeah.